Je vais aborder tout de suite le chapitre suivant. Je ne vais pas continuer sur Anders, j'aurais pu le faire, hein, c'était toute la partie sur la télévision et le monde comme fantôme et matrice. Hein, la grande idée d'Anders, en fait, c'est qu'il y a une inversion entre, disons, le modèle et l'image. La télévision n'est pas qu'un moyen de transmettre de l'information, elle va elle-même exercer un formatage sur le réel. Vous voyez, c'est que le moyen est plus qu'un moyen, c'est toujours ce grand thème qu'on aborde depuis le début, et que ce moyen étant plus qu'un moyen, en réalité, il devient lui-même une fin. Par exemple, aujourd'hui, exister de manière glorieuse, c'est passé à la télévision. De la même façon, la télévision n'exerce pas une information ni une désinformation. Ça, c'est le problème éthique, l'information ou la désinformation. Mais il y a un problème plus fondamental qui est la nature même de ce qui passe à la télévision et qui est de toute façon formaté. C'est-à-dire que pour que quelque chose passe à la télévision et soit un objet télévisuel, eh bien, il faut que ça prenne un caractère spectaculaire, il faut que ça prenne le caractère de ce qui est fort à la télévision. Vous comprenez? À partir du moment où vous n'êtes plus dans une situation de présence, à partir du moment où vous n'êtes plus dans une situation d'explication ou de conversation, qu'est-ce qui va jouer? Eh bien, le fait que c'est télégénique. Mais ce qui est télégénique, vous comprenez, hein, c'est là où il y a du débat, là où il y a du spectacle, là où il y a d'une sorte de beauté justement assez limitée, mais enfin d'une plasticité justement télévisuelle. Donc, comprenez bien que l'idée, c'est que on a une inversion des rapports avec le fait que ce qui est censé être moyen devient une sorte de matrice. Et c'est très étonnant qu'en 1956, le terme matrice, pour parler du dispositif technologique, qui va être donc repris dans un film de science-fiction très célèbre, qui s'appelle Matrix, justement, mais qui déjà est un film daté. Hein, vous savez bien que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la science-fiction est elle-même obsolète, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de science-fiction. Nous sommes déjà presque au-delà de la projection de la science-fiction, parce que ce dont on est capable, et même ce qui se joue du côté des big data, par exemple, est au-delà de nos capacités même, on pourrait dire, de représentation, voire même, et surtout de narration, en fait. Vous avez dit, il n'y a pas de héros, il y a des algorithmes, il y a des choses, donc il n'y a même plus d'histoire à raconter. D'accord ? Donc c'est étonnant qu'en 1956, Anders voit déjà cela, hein, et parle vraiment d'une inversion. Donc on retrouve ici notre thème, c'est que la technologie n'est pas, la technique n'a jamais été, mais en plus la technologie encore moins, qu'un ensemble d'outils, d'accessoires dont il s'agirait simplement de faire bon usage. Nous sommes pris dans un dispositif et ce dispositif est formateur. Il n'est pas simplement une somme d'outils et puis nous aurions en main la formation. Vous voyez, s'il y a un formatage opéré par la technique. Et cela est beaucoup plus vrai des appareils, bien sûr, que des outils. La télévision, par exemple, invente un nouveau statut d'être qu'on est incapable de définir, qui vient briser l'ontologie ordinaire. C'est une remarque que fait Anders. Vous pouvez lire Thomas d'Aquin, Aristote, vous êtes face à un phénomène que ni Aristote, ni Thomas d'Aquin n'ont pensé, parce qu'il n'y était pas confronté, je pense au phénomène de qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en train de regarder ce qu'on appelle un live. Ce qui se passe à la télévision, est-ce que c'est ici ou est-ce que ça n'est pas ici? Est-ce que c'est proche ou est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est fictif? Est-ce que c'est présent ou est-ce que c'est absent? Eh bien, il y a une profonde indétermination ontologique de ce qui se joue là. Heidegger, vous savez, va parler du sans distance à propos de ce qui se joue à la télévision et à travers toutes les technologies de l'information. C'est ni proche, ni lointain. Vous voyez ? C'est ni présent, ni absent. Vous êtes même dans une sorte d'inversion de ce qui se joue dans l'Eucharistie. Vous savez, hein, quand vous êtes dans l'adoration eucharistique, vous avez une présence qui est absolue, vous savez, divine, et des espèces extrêmement pauvres. Ici, vous avez des espèces qui sont effervescentes et scintillantes et fascinantes. Les espèces sont fascinantes, vous voyez, mais la présence est nulle. Donc, qu'est-ce qui se joue ici? C'est très difficile à penser. Et vous voyez, on est confronté à des phénomènes nouveaux. Bien sûr que quand on travaillait la terre, quand on avait des outils, cette manière d'agir encore, cette manière de faire, influait sur notre manière de voir. Mais lorsqu'on passe à l'appareil, on arrive à des manières de voir qui perdent toute profondeur, même métaphysique, parce qu'il n'y a plus de contact réel avec les choses, parce qu'on est face en permanence à des objets dont le statut ontologique est indéterminé. Vous voyez ? Le problème du virtuel, c'est que ce n'est pas de l'irréel. Mais ce n'est pas du réel non plus. Qu'est-ce que c'est ? Et on est confronté à des questions nouvelles. Et ça, il faut en être parfaitement conscient. D'accord ? Oui, Domiti. Quand on fait de la science-fiction, on fait aujourd'hui effectivement de la science-fiction apocalyptique des derniers temps, c'est vrai. Justement, c'est plus. On essaye de faire table rase de ce que fait la science, de ce point de vue-là. Donc, vous venez confirmer ce qu'il est en train de dire, c'est que si on est du côté de la science-fiction, c'est-à-dire, hein, vous avez bien une fiction qui est autour de la question de ce que peut la science ou ce que pourrait la science à l'avenir, eh bien, on est dans des projections, mais vous vous rendez compte que ces projections, finalement, sont encore en dessous des potentialités réelles qui déjà nous dépassent. Voilà. Alors que, et c'est pour ça que souvent, on va vers du post-apocalyptique, parce qu'au moins, quand il y a eu une dévastation, il n'y a plus d'objets, vous voyez, les ordinateurs ont explosé, les trucs, et on revient à des gens qui, à partir d'une catastrophe totale, vivent la sortie de l'Éden, quand on recommence l'histoire à zéro. Donc c'est un peu, voilà, il y a une narration possible. Juste une remarque, encore, hein, pour vous montrer les questions, le changement radical qui est posé par les appareils et par les technologies nouvelles. Jusqu'à présent, la science a été une science du pourquoi ou du comment. L'apparition, si vous voulez, d'énormes ordinateurs et des big data, c'est-à-dire de l'énorme masse de données qui sont sans cesse produites par nos appareils, et c'est énorme, va amener donc des algorithmes de gestion où on va pouvoir statistiquement, vous voyez, prévoir des choses. Ça, c'est un point important, retenez-le, parce que ça c'est un mouvement. Aujourd'hui, si vous savez quels sont les métiers qui sont les plus en vogue, il paraît que les métiers les pires de l'année qui vient de s'écouler, c'est, il y en a deux, c'est journaliste et bûcheron. Ils ont fait, je ne sais pas comment ils calculent ça, mais enfin. En revanche, les métiers qui ont le vent en poupe sont aussi en. Ils en mettent deux en avant. C'est, ingénieur de big data, en fait, hein, vous voyez, celui qui s'occupe des big data, donc les données qui sont générées par les ordinateurs, et aussi statisticien. statisticien, c'est le métier qui est en train de gagner. Et mais alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Quel est le rapport de pourquoi statisticien et tout ce qui relève de la digital economy? Parce que justement, la statistique devient la science par excellence. Pourquoi est-ce que ça devient la science par excellence? Parce que la statistique, justement, sert à corréler des données empiriques, des informations, et que précisément, c'est ça ce que peut faire le big data. C'est-à-dire non plus chercher pourquoi, chercher la cause, non plus même savoir comment ça fonctionne, mais simplement remarquer des effets statistiques, c'est-à-dire quand il y a toutes ces données-là qui sont en place, il y a toujours, on remarque, presque toujours, quasiment la plupart du temps, telle chose qui suit. Ce n'est pas une relation de cause à effet, c'est une relation de corrélation entre un antécédent et un conséquent. Vous voyez, hein, on est dans... Vous avez fait un petit peu de philosophie de la connaissance. Vous avez entendu parler de Hume qui prétend qu'il n'y a pas vraiment de causalité, mais que de l'antécédent et du conséquent qu'on corrèle finalement et notre esprit projetterait de la causalité. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est comme ça que va fonctionner de plus en plus la science. Par exemple, hein, on arrive à avoir des tas de paramètres et à gérer des tas de paramètres en même temps sur des enfants prématurés, et on s'est rendu compte que quand, alors de manière paradoxale je crois d'ailleurs, quand tous les indicateurs étaient au vert pendant trop longtemps, c'est-à-dire que tout allait bien pour Fantin, il y avait une proportion énorme une infection qui suivait. On ne sait pas pourquoi l'infection apparaît. On ne sait pas comment elle apparaît, mais on sait qu'il y a une corrélation entre toutes ces données qu'on a prises et puis ce qui va suivre. Et donc, c'est la sortie de la pensée, vous êtes conscient, hein? C'est-à-dire que désormais, le règne de la statistique correspond à une sortie de la pensée, c'est-à-dire des deux grandes questions, pourquoi et comment, pour arriver à simplement une corrélation. Il n'y a plus de causalité. Il n'y a plus même de fonctionnalité au sens de la question du comment ça marche, hein, comment ça opère, mais simplement des effets de corrélation stochastiques, hein, c'est-à-dire à partir des probabilités. Mais ça, c'est une transformation énorme. C'est pourquoi je voudrais aborder dans cette leçon, cette nouvelle leçon, donc celui qui a essayé de penser la transformation complète de l'agir et notamment de la morale à l'époque de la civilisation technologique, comme il l'appelle. Donc, nouvelle leçon, avant-dernière leçon, leçon donc déjà presque conclusive sur la pensée de ce grand philosophe qui a aussi, lui, traversé tout le XXe siècle, qui est un contemporain, pur et simple, de Günther Anders, qui s'appelle Hans Jonas, ou Jonas. Donc, chapitre que j'intitulerai « Le signe de Jonas ». Comme j'ai sauté deux leçons, je ne sais pas, ça doit être la neuvième leçon... c'est ça, non? Oui, mais j'en ai sauté deux. Hein? Oui? Donc c'est la 9. C'est concrètement la 9. Voilà, vous voyez. Bon. On est dans quelque chose de vivant, vous voyez, on ne pouvait pas calculer. Donc 8e, 9e ou 11e leçon, selon... ce que j'ai appelé le signe de Jonas. Hans Jonas est lui aussi un disciple de Heidegger, enfin disciple, quelqu'un qui va le critiquer, qui va toujours d'ailleurs avoir une démarche critique, notamment du premier Heidegger, de celui de Sein und Zeit. il est juif lui aussi. Donc, je l'avais dit, hein, cette série de penseurs juifs qui ont été à l'école de Heidegger, même si c'est pour critiquer le maître, même si c'est pour aller contre lui, ça sera toujours tout contre lui, c'est-à-dire d'une pensée qui va partir quand même, qui va s'adosser en partie, même dans une dimension critique, à celle de Heidegger. Donc, eux-mêmes vont renouveler la pensée à partir du renouvellement opéré par Heidegger. Et j'ai d'ailleurs dans mon bureau un portrait de Heidegger, il faut que je l'avoue. Mais c'est ça qui est très intéressant, je peux l'avouer d'autant plus facilement que ce portrait de Heidegger a été dessiné, c'est un portrait du semestre d'hiver de 1926, donc l'année qui précède la parution de Être et Temps. Qui a dessiné ce portrait? C'était un grand dessinateur de Heidegger, c'est Hans Jonas. Hans Jonas dessine, alors qu'il est étudiant, vous voyez, Heidegger en 1926, et fait un très beau portrait, un des plus beaux d'ailleurs qu'on ait de Heidegger. Donc c'était un dessinateur, c'est intéressant comme Portman d'ailleurs, hein, ce qui implique un certain rapport au monde. Hein, le dessin est une école du regard, et une école du regard qui en plus reconnaît aux formes qui apparaissent, hein, ce qui se joue à l'œil nu, vous voyez, toute sa profondeur. Vous voyez, la profondeur est à la surface pour le dessinateur, comme un visage, justement. Et donc, c'est sans doute pas sans lien avec, justement, la pensée de Hans Jonas. Hans Jonas a trois périodes dans sa réflexion. Une première période où il s'intéresse aux hérésies chrétiennes des tout premiers temps, et donc où il s'intéresse à ce qu'on appelle la gnose ou le gnosticisme. Les premiers travaux de Jonas sont sur les gnostiques. Et donc, sur une métaphysique qui pense que le monde matériel est un monde mauvais, et que l'homme est essentiellement un être spirituel qui est prisonnier du tombeau du corps. Bon, l'expression, vous la trouvez chez Platon, c'est vrai, mais Platon n'est pas du tout agnostique, hein, au cas où vous croiriez que Platon est un ennemi de la matière ou du corps, c'est à peu près le contraire qu'il y a dans sa pensée, puisque dans le Cratyle, il fait le jeu de mots sur le corps tombeau, vous voyez, un soma sema, mais en même temps, il dira que le corps, il fera un jeu de mots sur soma et sur ce qui va donner soterios, vous voyez, le sauveur. Il dit aussi que c'est par le corps que passe le salut, vous voyez, dans le corps que se joue le salut. Alors ça, c'est très étonnant, hein, la pensée de Platon est très, très profonde, parce que en même temps qu'elle va parler justement de l'eidos et donc de l'intelligibilité comme ce qui est plus profond que tout ce qui est sensible, malgré tout, ce qui motive cette remontée vers le visage, l'idée, mais en fait le visage des choses, le visage mystérieux des choses chez Platon, c'est quand même l'expérience sensible, c'est le fait qu'on est touché par un beau corps ou par, vous voyez, donc la place du sensible chez Platon est énorme. C'est pas agnostique. Mais chez les gnostiques, il y a toujours, vous voyez, cette sorte de double principe, un principe créateur de ce qui est profondément spirituel en nous, pas le psychique, mais le spirituel vraiment. Et puis de l'autre côté, un mauvais démiurge, un principe du mal, un démon. D'ailleurs, souvent les gnostiques diront que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le mauvais démiurge, et que Jésus est venu révéler un autre Dieu. Donc aussi coupure avec le monde juif, opposition entre le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est un mauvais démiurge qui est l'auteur de ce monde matériel, qui est d'une sorte de geôle, de lieu où nous subissons des tourments et auxquels il faudrait s'arracher. Alors, c'est intéressant parce que cette première période n'est pas sans lien avec ce qui va suivre. D'abord, c'est une critique de Heidegger, voire même de Jean-Paul Sartre, hein, vous voyez, enfin dans le même langage, de toute une forme d'existentialisme qui pense l'homme comme un être jeté et abandonné dans le monde. Toutes les philosophies qui pensent l'homme comme une pure liberté qui n'a rien à voir avec la nature et qui est jetée au monde, qui est dans ce que Sartre appelle la déréliction, hein, eh bien cela est finalement gnostique. Il y a un gnosticisme de l'existentialisme qui pose cette sorte de liberté perdue, égarée, dans un monde qui finalement n'a rien à voir avec elle. Comme s'il y avait une sorte de chute, vous voyez, à partir d'un lieu de perfection, de pure liberté, etc. Donc, il y a une critique du Heidegger qui va insister sur le fait que l'homme, par exemple, quand il naît dans le monde, il est jeté au monde. On avait vu ça, hein, la naissance comme une chute. Déjà, Anders critiquait ça. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on en a parlé. La naissance comme chute, la naissance qui fait qu'on est pris dans des déterminations, voire des déterminismes, alors que nous sommes liberté. Et donc, il va falloir lutter contre sa propre naissance, vous voyez. Ben ça, on le voyait déjà, Anders se rend compte de ce problème-là, et que même c'est ça qui est au fondement, ben voilà, de tout ce qui est la fascination technologique, d'auto-construction de soi. Et toutes les logiques où il va falloir s'auto-construire, logique du self-made man, mais aussi certaines logiques où il y a une auto-fondation du sujet dans sa liberté, par rapport à tous ces héritages, tous ces déterminismes, donc l'individualisme, etc., finalement aurait sa source dans la gnose, dans le gnosticisme. Oui. Deuxième point, donc, hein, la technologie a quelque chose de gnostique, puisque le monde tel qu'il est donné est un monde qui est mauvais, et il faut le transformer, le reformater par une sorte de volonté de puissance technologique, voyez, qui va créer enfin un homme plus adapté ou meilleur. Alors, la chose qui est très étrange, c'est qu'on a, on est métaphysiquement dans une gnose, mais il n'y a pas le spiritualisme de la gnose. Parce que vous voyez, la gnose dirait il faut s'échapper de ce monde matériel. Là, on y reste, on s'y enfonce, hein, on manipule. Mais il y a malgré tout le même rejet, si vous voulez, des formes telles qu'elles sont données, des formes naturelles telles qu'elles sont données. Donc on est dans quelque chose qui est très étrange, qui est à la fois spiritualiste, parce que l'idée c'est que l'homme c'est d'abord sa conscience, peu importe s'il est sur des supports non biologiques, vous voyez, hein, ce que rêvent les transhumanistes. L'homme, c'est d'abord une volonté qui transforme ce qui est donné, etc. Donc ça, c'est gnostique, mais en même temps, vous voyez, ce spiritualisme n'est pas complètement spiritualiste parce qu'il n'y a pas l'idée qu'on va aller vers le plérôme, on va s'arracher au monde matériel. Il s'agit de transformer ce monde matériel pour en faire, justement, un lieu enfin hospitalier. Mais en lui-même, il serait absolument atroce et il faut voilà, s'en débarrasser tel qu'il est donné. Chez les transhumanistes, vous retrouvez des expressions comme le corps, comme sac à viande, comme lieu de, vous voyez, de vulnérabilité, de passibilité, donc de souffrance, etc. Deuxième partie de l'œuvre de Jonas, qui est la partie finalement positive à partir de cette réflexion sur le gnosticisme, qui est un travail de philosophie de la biologie, voire de philosophie de la vie. Il aura un grand livre qui s'appelle « Le phénomène de la vie », et puis un autre qui n'a jamais paru en français, dont on pense que c'est son chef-d'œuvre, qui s'appelle « Organisme et liberté ». Et tout l'effort de Jonas, dans ce travail-là, c'est d'essayer de penser le vivant contre le réductionnisme physico-chimique ou mécaniciste qui a cours dans la biologie. et notamment de repenser, donc retrouver d'une certaine façon Aristote, de repenser une sorte de continuum entre la liberté humaine même et les formes vivantes. Déjà, le métabolisme est une certaine forme d'autonomie, dira Jonas. Et au lieu, donc vous vous souvenez, on avait parlé à propos du vivant, les anciens pensaient le non-humain à partir de l'humain, il y a une forme d'anthropomorphisme, le non-vivant à partir du vivant. C'est une pensée profondément, on pourrait dire, non pas tellement anthropocentrique, mais c'est vrai qui est zoocentrique ou zoomorphique. Tout est pensé à partir de la vie. Et même la matière, vous voyez, la matière, phrase d'Aristote, la matière désire la forme comme le mâle désire la femelle. Vous voyez, une phrase comme cela d'Aristote, extraordinaire, où on voit le désir, où on voit la vie, même dans ce qui est non vivant. Et ce qui explique cela, ce n'est pas du tout une sorte de pensée encore un peu mythologique, etc. C'est de bien penser que pourquoi y a-t-il la matière? Quelle est la finalité de tout ça? À la limite, c'est peut-être une manière de penser l'évolution, un peu comme Bergson ou comme Teilhard de Chardin, mais c'est de dire, puisque tout ça est venu vers l'humain, ça veut dire que tout était déjà, vous voyez, en mouvement vers ça, et donc à chaque fois, il y a des débuts, des commencements de ce qu'on va voir complètement achevé dans l'homme. Vous voyez? Bien sûr que Claire est une splendeur de réalisation de la nature, mais déjà dans l'amibe, dans l'oursin, dans le poulpe, dans le bonobo bien sûr aussi, il y a quelque chose déjà qui va pleinement s'épanouir en clair. On n'est pas, l'idée c'est de rompre avec, parce que la thèse de Jonas c'est que finalement le gnosticisme est resté dans toutes les pensées dualistes. C'était un reste de gnosticisme qui était encore. Donc il faut retrouver à la fois marquer une distinction, une exception humaine, mais en même temps retrouver le continuum de l'homme avec le reste du vivant. Et donc de dire, vous voyez, quand un organisme le premier organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il a un métabolisme et il y a une distinction entre l'intérieur et l'extérieur. La différence entre l'intérieur et l'extérieur est déterminante pour un être vivant. Vous voyez, il se forme de lui-même en absorbant des choses qui viennent de l'extérieur qu'il convertit en sa propre substance. Il n'est pas qu'en train de subir des effets mécaniques comme l'érosion d'une montagne, etc. Il assimile des choses et en les assimilant, il les rend semblables à lui-même et il reconstitue sa propre forme. Donc, vous voyez, il dit, mais déjà, c'est un commencement d'intériorité. Déjà, c'est un commencement, vous voyez, d'autonomie, de liberté. D'accord? Ce qui fait que la liberté n'est pas pensée simplement comme un truc tombé du ciel, mais en relation de dépendance avec un monde extérieur, comme dans l'organisme. Et puis, de l'autre côté, donc, ça nous fait voir le vivant comme quelque chose qui est déjà en mouvement vers son déploiement, qui est la rationalité, la liberté, etc. Il y a déjà des commencements de ce qui va se réaliser pleinement dans la forme humaine. Et ça, c'est, au fond, c'est très aristotélicien, hein, mais ça a été brisé par des tas de formes de dualisme qui sont des restes de gnose. Et vous voyez, donc, repenser la vie, c'est repenser d'une certaine façon toute une biologie et à travers ça peut-être toute une écologie. Et c'est ça qui va amener une troisième étape de sa pensée qui est, on pourrait dire, la période de réflexion bioéthique, si ce mot n'était pas si galvaudé. Et c'est cela qui va amener l'écriture de son dernier grand livre, de cette dernière grande somme qui est vraiment riche de nombreux développements. C'est son œuvre la plus connue, bien sûr, hein, Le principe responsabilité. Dont le sous-titre est Une éthique pour la civilisation technologique. le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique. Et son constat, c'est que la technologie a tellement changé nos conditions de vie, c'est-à-dire qu'il y a une telle rupture entre l'époque de l'outil, voire même, si on emploie ma terminologie, l'époque de la machine et l'époque des appareils de la haute technologie, que nous sommes face à un vide de pensée. La métaphysique traditionnelle devient insuffisante. L'éthique traditionnelle devient insuffisante. Nous n'avons plus dans notre héritage les moyens de penser les phénomènes absolument nouveaux qui se posent à nous. Et vous voyez, cette chose-là est très profonde. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'éthique traditionnelle. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il faut lui offrir un complément qui est absolument nécessaire et qui est d'une urgence extrême. On trouve ça dans Laudato Si. Vous savez, par exemple, beaucoup de gens se sont dit « Mais comment ça se fait que le pape, tout d'un coup, ose parler d'un péché écologique ou d'un péché contre la nature ? » Alors que finalement, est-ce qu'il n'y a pas de péché uniquement sur des modes interpersonnels ? Finalement, est-ce qu'on peut blesser la nature ? Est-ce qu'on peut... voilà. Est-ce que quand on fait du mal à un animal, on pêche contre lui ou est-ce qu'on pêche parce qu'on s'abaisse, on s'avilit, mais vous voyez, et on pêche par là contre Dieu. En tout cas, vous voyez bien que même au sein de l'Église et même dans un texte, dans une encyclique, on sent qu'on essaye, on introduit, vous voyez, un nouveau concept parce qu'on est face à une situation absolument nouvelle. Et que si, dans cette situation-là, on en reste simplement à certaines déterminations de l'éthique traditionnelle, l'éthique d'Aristote, vous voyez, ce n'est pas un rejet d'Aristote, puisque je vous l'avais dit, toute sa manière de repenser la nature est assez aristotélicienne. Mais il y a aussi, aujourd'hui, des enjeux qui excèdent tout cela. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je ne cesse de dire... quand je rencontre des directeurs de séminaires ou de... Et je leur dis, mais dans la ratio des études, il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur la technique. Si vous n'en avez pas, de quoi est-ce que vous allez parler, finalement, par rapport à certains défis contemporains ? Non seulement, comment est-ce que vous allez faire pour les prêtres, vous voyez, pour les prêtres, comment est-ce qu'on... Si vous n'avez pas un discours sur les objets technologiques qui les environnent, déjà, pour leur propre vie morale, mais ça change tout. Je leur dis, qu'est-ce que c'est qu'une clôture ? Qu'est-ce que c'est que la clôture monastique, par exemple ? La clôture monastique, autrefois, vous voyez, quand vous aviez un mur, eh bien, les choses du dehors ne venaient pas. Aujourd'hui, vous avez un mur, c'est comme ça que les choses du dehors viennent. Parce que qui vit le plus dans sa cellule aujourd'hui, tout en n'étant absolument pas monastique ? C'est le geek. Le geek, il est là, il reste dans une pièce... Et il est complètement connecté, vous voyez, il n'a plus de rapport au dehors. Vous seriez presque plus moine en sortant dans la rue et en vous confrontant aux gens, vous auriez peut-être une plus grande clôture, vous voyez, en vous confrontant aux personnes physiques, vous voyez, voire même, d'ailleurs, en allant au bordel de la basse ville, qu'en étant simplement enfermé. Vous voyez, et vous avez la clôture physique, mais vous avez la Wi-Fi. Non mais qu'est-ce que vous comprenez ? Même la définition de la clôture ne tient plus. Les carmes sont confrontés à des problèmes, les chartreux à des problèmes qu'ils n'ont jamais eu autrefois. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on permet Internet ? À quel moment ? Où ? Ou est-ce qu'on dit « pas du tout d'Internet » ? Comprenez, c'est un problème majeur. Qu'est-ce qu'on met comme sécurité éventuellement ? Qu'est-ce qu'on met comme... On ne sait pas. Les chartreux. Les chartreux, on m'a parlé de distorsions qui s'opéraient chez les chartreux, c'est des échos que j'ai eus de l'intérieur, où aujourd'hui, grâce aux télécommunications, vous avez le chartreux de base qui peut en référer directement au général des chartreux. Ce qui fait qu'il y a une sorte de court-circuitage de la hiérarchie de proximité qui existe dans le monastère. Et là, ça crée des problèmes, vous voyez, aussi énormes. Parce que quand ça ne va pas, vous envoyez un message. Donc, on est dans une situation où la vie spirituelle est transformée déjà. Vous voyez bien qu'on a des moyens qui changent la donne, qui changent radicalement la donne. Donc, il faut bien penser autrement. Mais ça va beaucoup plus loin. Bien sûr, un des problèmes fondamentaux auxquels on n'a jamais été confronté, c'est la possibilité d'une extinction totale. Généralement, on ne s'était pas posé cette question-là, vous voyez, en morale, c'était « attention, ne fais pas de mal à ton prochain, à ton voisin, à ton... » Et là, l'idée, c'est que vous devez réfléchir aussi à des questions qui sont des questions qui concernent la possibilité même d'une vie humaine. Avec un minimum de biodiversité, de rapport aux animaux, aux plantes, parce que la vie humaine, sans ça, vous voyez, ça ne tient pas sur la Lune, ça ne tient pas. Alors voilà un des textes d'introduction, texte de préface, de Hans Jonas dans le principe de responsabilité. Ce que l'homme peut faire aujourd'hui, vous ne les avez peut-être pas... En fait, ça devrait arriver, mais bon, on va faire une pause de toute façon après la lecture de ce texte et puis on regardera si les textes sont arrivés. Ce que l'homme peut faire aujourd'hui et ce que par la suite il sera contraint de continuer à faire dans l'exercice irrésistible de son pouvoir n'a pas son équivalent dans l'expérience passée. Toute sagesse héritée relative au comportement juste est étayée en vue de cette expérience. Nulle éthique traditionnelle ne nous instruit donc sur les normes du bien et du mal auxquelles doivent être soumises les modalités entièrement nouvelles du pouvoir et de ses créations possibles. La terre nouvelle de la pratique collective, avec laquelle nous sommes entrés avec la technologie de pointe, est encore une terre vierge de la théorie éthique. Donc, il y a une terre vierge. La morale traditionnelle était liée à une certaine expérience de la technique qui désormais s'est transformée. Et c'est là où je vous dis où il y a un enjeu fondamental à comprendre que la technologie par rapport à la techné ou l'appareil par rapport à l'outil, c'est pas un perfectionnement de l'outil. Vous avez compris, vous vous souvenez, hein? Il y a une rupture, c'est une autre modalité. Et donc un autre mode de dévoilement du monde. De la même façon, l'élevage industriel n'est plus de l'élevage. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui des productions animales. Et il y a des phénomènes qui sont des phénomènes industriels, technologiques, où je vous l'avais dit, on l'avait vu avec Marx, ça n'est pas un progrès par rapport aux formes artisanales. L'industrie n'est pas un progrès, un perfectionnement des formes artisanales. C'est une rupture. Et dès lors, nous sommes face à des problèmes nouveaux, parce que ce qui était pensé autrefois en éthique était pensé à partir d'un certain déploiement technique qui n'est plus le même. Dans ce vide, qui est en même temps le vide de l'actuel relativisme des valeurs, critique du relativisme, hein, comme vide moral, s'établit la recherche présentée ici. Qu'est-ce qui peut servir de boussole? Et alors là, vous allez voir une méthode qu'on trouve chez Anders et qu'on retrouve ici chez Jonas, c'est vraiment ce qu'ils ont en commun, l'anticipation de la menace elle-même. Cela, je l'appelle une heuristique de la peur. Heuristique, ça veut dire ce qui permet la découverte, hein. Un principe heuristique, c'est un principe qui permet la découverte. découvrir des nouvelles choses, hein, apprendre de nouvelles choses. Seule la prévision de la déformation de l'homme nous fournit le concept de l'homme qui nous permet de nous en prémunir. Et seule la prévision de la déformation de l'homme nous fournit le concept de l'homme qui nous permet de nous en prémunir. Nous savons seulement ce qui est en jeu dès lors que nous savons que cela est en jeu. La peur est un principe de découverte de ce qui est en jeu dans la civilisation technologique. Et même, cela doit devenir... Alors, curieusement, c'est un reste de Heidegger. Vous savez qu'il insiste sur l'angoisse comme Stimmung fondamentale. Mais et là, ici, c'est vraiment la peur qui est une manière profondément prémorale, vous voyez, d'entrer dans la possibilité d'un renouvellement de la morale pour aujourd'hui. Il faut avoir peur. Et toutes les personnes qui vous disent « Oui, arrêtez, vraiment, pourquoi est-ce que vous avez autant peur de la technologie, etc. » Vraiment, vous êtes... Et vous savez, ils vous font toute une sorte de déclaration où il y a même toute une sagesse ancienne qui vous dit « Il faut surmonter ses peurs, il faut aller au-delà de la peur. » Donc, les stoïciens, par exemple, hein, la peur est quelque chose qui serait nécessairement mauvais. Vous savez bien que toute peur n'est pas mauvaise, évidemment. C'est important. Si vous aviez sur les autoroutes des gens qui n'ont jamais peur d'avoir un accident, vous voyez ce qui se passerait. Bon, donc la peur, elle est aussi positive. Mais là, vraiment, ça devient un principe. Quand Anders dit que la possibilité de la destruction totale correspond à la destruction totale de nos possibilités, notre rapport au temps est entièrement changé par la compréhension, par la finitude humaine, hein, mais finitude collective désormais, possibilité d'extinction totale, on pourrait dire qu'il exagère, on a encore des possibilités, mais s'il va si loin, c'est pour que nous ayons peur et pour que cette peur, tout d'un coup, nous mobilise. Vous voyez ? Nous mettre en mouvement par rapport à cette question-là. Donc il y a chez Jonas une réhabilitation de la peur à l'intérieur de la civilisation technologique et que ne pas avoir peur, c'est ne pas comprendre ce qui est profondément en jeu, à savoir la possibilité même de notre existence humaine, d'une existence humaine sur la Terre. C'est pour cela qu'il continue sa préface avec ce passage que j'admire, enfin, qui m'est particulièrement cher. La fondation d'une telle éthique qui ne reste plus liée au domaine immédiatement subjectif des contemporains doit s'étendre jusqu'à la métaphysique qui seule permet de se demander pourquoi des hommes doivent exister au monde. Vous voyez jusqu'où il va, hein, bon. Donc pourquoi vaut l'impératif inconditionnel de préserver leur existence pour l'avenir. L'aventure de la technologie, écoutez bien cette phrase, ça c'est la phrase décisive et je pense que c'est un résumé de ce que veut dire Heidegger aussi quand il dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Et c'est un peu le fond de l'espérance que j'essaye de penser à l'intérieur. Vous voyez, du désespoir technologique. L'aventure de la technologie, avec ses risques extrêmes, exige ce risque de la réflexion extrême. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris, dans la peur d'une certaine façon, que ce qui est en jeu, c'est la possibilité d'une disparition totale de l'humanité, il ne s'agit pas simplement de trembler, mais dans ce tremblement, nous sommes acculés à remonter jusqu'aux principes les plus radicaux. C'est-à-dire qu'on est acculé à retrouver une métaphysique, voire même plus qu'une métaphysique, peut-être même une théologie de la création. C'est-à-dire que la situation est si extrême que qu'est-ce qui peut garantir encore quelque chose? Eh bien, un retour à une métaphysique, mais métaphysique, c'est pour des spécialistes, c'est pour des philosophes, vous voyez. Donc, quelque chose qui est la métaphysique donnée à tout le monde, qui va même plus loin que la métaphysique, qui va être, de toute façon, on va le voir chez Anders, la question du sacré et finalement la question du religieux. Nous sommes dans une époque où nous sommes comme poussés, forcés à retrouver une espérance théologale et une théologie de la création qui vient fonder, vous voyez, la présence de l'homme sur la terre. Parce que vous avez vu quelle est la réflexion extrême. C'est plus est-ce que je dois vivre ou pas. Ça, c'est une question individuelle. La question extrême, c'est pourquoi devrait-il y avoir encore des hommes sur la terre? Nous avons la possibilité de leur destruction, de leur mutation, de leur extinction. On ne s'était jamais posé cette question-là. Qu'est-ce qui légitime l'humain? De continuer avec l'humain. C'est ça la réflexion extrême. Ce passage-là est d'ailleurs fortement prolongé par un livre de Rémi Bragg qui s'appelle « Le propre de l'homme », en fait, qui devait s'appeler « La légitimité de l'humain », où il dit « L'humanisme est fini ». Autrefois, on se disait « Comment faire pour promouvoir l'humain ?» Maintenant, la grande question, c'est « Pourquoi continuer avec l'humain ?» À partir du moment, vous voyez, on a la possibilité non seulement d'une destruction, mais aussi d'une mutation technologique. La question, c'est pourquoi on continue avec l'humain. D'où toutes ces nouvelles questions. Vous vous souvenez, je vous avais dit au début d'année, hein, pourquoi bah, la vulnérabilité, pourquoi le corps, pourquoi la sexuation, pourquoi... Oui, puisqu'on pourrait en sortir, à la limite. Et il faut retrouver, donc, cette situation extrême. Et vous comprenez, hein, nous sommes à l'époque de l'extrémisme. Mais c'est pas, l'extrémisme n'est pas une option idéologique d'après Jonas. C'est la situation qui est extrême et qui nous pousse à une réflexion extrême. Ne pas être extrémiste aujourd'hui, dans le sens où l'entend Jonas, hein, c'est être aveugle. Mais il faut comprendre que la situation est extrême aussi pour entrer dans une véritable extrémité qui nous garantit contre des formes d'extrémisme qui sont, eux, destructeurs. Un écologisme qui mépriserait l'humain et qui voudrait détruire justement le seul qui est responsable pour la nature, à savoir l'homme, au profit des autres espèces qui seraient les victimes de l'humanité, ou un fondamentalisme religieux qui dirait, ben voilà, vous voyez bien, ce monde c'est de la merde, on est dans une extinction imminente, donc il faudrait revenir vers le ciel et oublier toute la terre, donc des formes de gnose qui reviennent. Si on est dans une situation extrême, l'extrémisme du transhumanisme, l'extrémisme du fondamentalisme religieux, l'extrémisme d'un écologisme anti-humain, tous ces extrémismes-là, ils ne viennent pas de nulle part, c'est que nous sommes dans une situation extrême et que nous devons donc penser à l'extrême. C'est étonnant parce que est paru de Heidegger ce livre posthume qui s'appelle « Apport à la philosophie » et à la fin, il parle du Dieu à l'extrême. Traduit par le dernier Dieu, mais le Dieu à l'extrême. La situation est extrême. Voilà. Donc, il faut renouveler notre pensée, et spécialement notre pensée morale.